France Culture.
Simon Abkarian, bonjour.
Bonjour.
C'est le cinquième et dernier épisode avec vous pour parler de votre art de la scène, du théâtre, de l'importance du théâtre et de la façon dont vous mettez en scène vos pièces avant tout, celles parfois des autres. Enfin, ça c'est il y a un peu plus longtemps. Pour commencer cet épisode, je voudrais lire l'épilogue, pas en entier, mais une partie de l'épilogue du dernier jour du jeûne, une de vos pièces. C'est Sandra qui le dit. Les paroles du poète sont bien peu puissantes. Elles sont tout au plus une rosée de larmes, tombée sur l'aube de la mémoire qui ne se lève pas. Mais lorsqu'elles sont chantées, elles transforment, dit-on, les ténèbres en cantiques d'éveil et de lumière. Il me semble que c'est comme un manifeste du théâtre de Simon Abkarian, cette phrase.
Oui, je ne sais pas, en fait. Il y a un moment donné où je ne sais plus, parce que c'est des choses qui nous dépassent. Oui, bien sûr, la parole, elle prend une autre ampleur sur un plateau de théâtre. Et c'est là qu'elles sont chantées, ces paroles-là. Enfin, les paroles qui convoquent les esprits et les âmes. Je pense que c'est un endroit, le théâtre, où ça peut encore être le cas. C'est-à-dire un endroit de communion et d'éveil, et de partage.
Vous disiez dans l'épisode précédent à quel point on manquait d'une parole haute, grande, forte, aujourd'hui en particulier du point de vue de nos responsables politiques, que vous trouvez pauvres de ce point de vue-là. Est-ce que le théâtre, c'est le lieu où l'on se parle?
Parce que les politiques ont laissé tomber l'imaginaire. Ils ne font plus appel à notre imaginaire. Et le théâtre, c'est l'endroit où l'imaginaire se déploie, où l'homme, l'humain se déploie dans l'imaginaire. Il s'imagine, il projette, pour reparler de De Gaulle, qu'on en parlait l'autre fois, c'est quelqu'un qui avait un imaginaire, il se projetait dans un monde meilleur. Et le théâtre, c'est encore cet endroit-là, quoi. C'est où les voix, tout d'un coup, se transcendent, ne sont plus les mêmes voix, où les aigus, les graves prennent de l'importance, où les silences prennent de l'importance, des silences épais qui figent l'assemblée, qui sidèrent l'assemblée. Qu'elle soit sur le plateau ou dans les radins. Et c'est ça que je cherche, c'est ces rares moments-là que je cherche. Si j'en ai un dans une pièce ou deux pendant qu'on joue, je suis ravi.
Ça, c'est aussi ce que dit Théo, ce que vous interprétez dans le dernier jour du jeûne. Les mots qu'on ne dit pas sont les fleurs du silence, et le silence de l'homme est le sel de la conversation. Et alors, c'est très drôle, ça, parce que à cette phrase, Nouritsa, qui est jouée par Ariane Ascaride, qui joue le rôle de votre femme, enfin, l'épouse de Théos, dit « Ah, oh, celle-là, c'est celle que je préfère
!» Ouais. Ouais, ça, c'était une parole que disait ma grand-mère, mais autrement. Elle disait « Tais-toi avant de parler. » Souvent. Et c'est vrai que de se taire, c'est aussi laisser le temps à la parole de se déployer en soi, quoi. Parce que l'oreille, l'écoute, l'œil prend les nouvelles du monde qui cheminent à l'intérieur, qui font le travail qu'elle doit faire, ces choses qui sont vues et entendues, pour ressortir sous forme, non pas de réaction, mais de vie. De vie, tout simplement. D'une affirmation vitale. Parce que c'est vital, la parole elle est vitale. Il n'y a pas de bavardage au théâtre, tout doit être écrit. Pour moi, ça c'est mon point de vue, attention, ce que je dis, ce n'est pas un absolu, c'est moi, et qui peut-être demain je penserai autrement,
ah mince,
le théâtre. Non mais, autrement, mais dans le même sillon, je pense. Mais j'ai pas de conviction définitive en ce qui concerne l'art du théâtre, c'est quelque chose qui est en évolution parce que le monde l'est. Je n'ai pas le droit de me dire, jouer c'est comme ça, le théâtre c'est ça, mais en ce moment, pour moi, jouer c'est ça, le théâtre c'est ça, etc., etc., l'écriture c'est ça, etc.
Vous parlez de l'importance de l'oreille, de fait aussi des yeux, parce que dans votre théâtre, il y a beaucoup d'aveugles, alors pas seulement parce que on est dans la tragédie antique et qu'il y a des aveugles dans la tragédie antique, mais les yeux, le regard sont très présents dans votre théâtre. Est-ce que c'est aussi parce que vous pensez que le théâtre permet de regarder autrement?
Parce qu'au théâtre, on écoute avec les yeux aussi, je pense. Et que, comme disait William, elles sont les fenêtres de l'âme. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Ils sont. Je préfère dire elles sont. C'est les fenêtres. Bref. Et c'est par l'œil de l'acteur qu'on se plonge à l'intérieur de son âme. Pas seulement à travers ce qu'elle dit, ou ce qu'il dit, l'actrice ou l'acteur. C'est à travers aussi ses yeux. C'est ça aussi de faire un gros plan. ce qui est très difficile à faire au théâtre, parce que au cinéma on dit ouais, nous on a des gros plans, etc., etc. Mais c'est tout un art que de faire le plan sur ses yeux. Donc il faut que le corps soit en suspens, il faut que l'arrêt soit complet pour que les gens puissent se plonger en vous. Et cet arrêt-là, il est parce qu'on doit surmonter la parole tragique. Les silences, ils viennent du fait qu'on doit surmonter ce qu'on entend et ce qu'on va dire. Et le souffle se fait court. Le souffle se fait court dans le tragique. Il faut retrouver le combat de l'acteur à ce moment-là, ou de l'actrice, c'est de retrouver le souffle long. C'est comme la temporalité. Tout d'un coup, elle devient longue, elle devient infinie. Et c'est cette temporalité-là, c'est ce rythme-là, c'est ce souffle-là qui fait que le spectateur, les spectatrices puissent plonger dans le récit que vous leur proposez. Et encore une fois, ça reste à prouver tout ce que je dis. Non, parce que ça me dépasse, ça nous dépasse, et heureusement. Ça me dépasse. Moi, parfois, je relis des textes ou je revois des images, des photos du spectacle que j'ai fait, où je dis, ça, c'est moi qui ai écrit ça. C'est pas moi. C'est mon démon.
Les premières mises en scène remontent à 1998, avec Peine d'amour perdu, du grand William, le fameux Shakespeare que vous citiez, au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris. Et puis après, vous avez enchaîné en 2000 avec L'ultime chant de Troie, d'après Euripide, Eschyle, Sénèque et Parouir Sévac. C'est qui Parouir Sévac ?
C'est un poète arménien qui est mort, probablement assassiné à l'époque soviétique, et grand poète, qui m'a beaucoup inspiré. La poésie m'inspire beaucoup. C'est un chant dans lequel je vais souvent cueillir et me nourrir.
On le sent dans l'écriture.
J'espère.
En 2003, Titus Andronicus, Shakespeare encore, au Théâtre National de Chaillot. Et puis vous avez continué et monté vos propres pièces ensuite, Simon Abkarian. Qu'est-ce qui a changé dans vos mises en scène, puisque vous dites que c'est un travail en cours, un work in progress en bon français, entre les premières de Shakespeare et les dernières, outre que il s'agit de textes de vous, mais dans la façon de concevoir la scène, le plateau, les acteurs?
Je pense pas qu'il y ait grand chose qui ait changé. Tout a continué à évoluer dans le sens que j'ai commencé à creuser, où j'ai commencé au Théâtre du Soleil, mais ça part de l'acteur ou de l'actrice. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les humains qui sont sur scène. Les personnages m'intéressent pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vont faire les artistes, les créatrices et les créateurs qui sont sur le plateau, ce qu'elles vont faire de ce matériau. En fait, c'est leur humanité qui m'intéresse. C'est les personnes qui m'intéressent. C'est pas tant le personnage. Le personnage est un moyen de locomotion. Et en même temps, l'actrice ou l'acteur doit rester derrière les mots. Ni dans les mots, ni juste derrière, et entre les mots et la personne, il y a le voile du jeu qui se pose. On ne doit pas trop voir l'acteur, on doit l'entrevoir. Il faut arriver à garder un mystère. Et tout d'un coup, moi j'ai besoin de mystère, j'ai besoin d'hermétisme, j'ai besoin de questions, j'ai besoin de phrases pas finies. J'ai besoin de ça. Je ne veux pas d'affirmation, je ne veux pas de finalisation, de finalité, je ne veux pas de résultat. Je veux une tentative. Si on plante un arbre, c'est ça qui est beau en soi, c'est de le planter, c'est pas les fruits que l'arbre va nous procurer plus tard. Les fruits, c'est les fruits. Parfois, on oublie le fait que les fruits ne sont que le résultat d'un arbre bien planté et bien choyé. Et c'est ça pour moi. Souvent, parce qu'on dit, ah là, il faut que le public rie, on essaye de tomber dans le piège de la manipulation, de la réaction du public. Là, il faut lui foutre la paix au public. Et si on présente un travail, il ne faut pas leur filer la vinaigrette toute faite. Il faut leur dire voilà l'huile, voilà le vinaigre, voilà le sel, voilà la moutarde, voilà les échalotes, voilà le persil, etc. etc. Mais il ne faut pas leur présenter une vinaigrette toute faite, quoi. Il faut leur laisser le choix. Il faut leur laisser de l'espace. Parce que...
C'est le spectateur qui finit la pièce, vous voulez dire ?
Je pense. En tout cas.
Les parties intégrantes du spectacle ?
Ben, c'est pour eux qu'on fait, non ? C'est pas pour les institutions qu'on fait du théâtre. C'est vers le public qu'il faut se tourner. Le dos, il ne faut pas le tourner au public, il faut se tourner vers le public, c'est pour lui que nous œuvrons, n'est-ce pas? Donc, je ne vois pas d'autre alternative que ça, que d'être au service du public, en passant par l'auteur, l'autrice. Et en même temps, être au service du public, ça n'est pas être soumis à lui, c'est-à-dire ne pas se complaire ou lui donner Moi, je suis pas là ni pour éduquer le public, ni pour lui tenir la main, ni pour éclairer son chemin, ni pour rien du tout. Je suis là pour proposer une œuvre qui me dépasse. Donc, je ne saurais pas aller au bout d'une explication parce que je n'en ai pas. À un moment donné, si on se sent pas dépassé, c'est que il y a eu trop de maîtrise et la maîtrise, on sait où ça mène, quoi. Ça mène au pragmatisme. Le pragmatisme mène au fascisme, quelque part. Enfin, c'est un peu gros ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu raccourci, mais il faut faire confiance à l'intelligence du public et à son œil.
Est-ce que vous avez gagné en maîtrise ou perdu en maîtrise ?
J'espère que j'en ai perdu. C'est-à-dire, je me maîtrise, moi. Jusqu'au moment où je vais me laisser aller, quoi, dans le travail. Parce que le plateau va dire ce qui est là où il faut aller ou pas. Quand vous parlez de diriger un acteur, c'est pas tant diriger un acteur, c'est lui dégager l'espace, c'est lui ouvrir l'espace, c'est lui faire de la lumière, c'est lui donner le temps, c'est de le libérer du souci de réussir ou de rater une scène. De dire, c'est pas grave, cherche, continuons à cerner la scène de ce côté-là, de ce côté-ci, jouer comme ci, jouer comme ça, et de se donner le temps de le faire jusqu'à arriver à quelque chose de, qui soit juste, à une proposition qui soit juste. La vérité, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand il y a des gens qui disent « oui, mais là, je ne te crois pas », bon, on s'en fout. Ce n'est pas la question de croire ou pas croire un acteur qui est sur scène. C'est qu'il arrive à être conscient dans le chemin, dans son cheminement de création.
Que ce soit juste.
Que ce soit juste, oui. Que ce soit rythmé, juste, harmonieux, respiré, respirant, désinquiété. Parce qu'on est inquiet. Ce qu'on appelle le trac, c'est le trac. C'est encore une chose que de trembler devant une œuvre. Moi, j'ai tremblé devant Échille. J'ai tremblé. Et je tremblais tous les soirs. C'est aussi de dire aux gens, tu n'es pas coincé entre la porte de sortie et la porte du succès. Voilà. Tu as le temps de travailler. Et c'est ça qui fait parfois défaut au théâtre. Pour revenir au théâtre, quand vous parliez du théâtre de Chaillot, National de Chaillot, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup aussi, c'est Ariel Goldenberg, qui m'a donné le temps, qui m'a donné l'argent et le temps de travailler. Et qui ne se comportait pas comme un propriétaire terrien en ce qui concerne le théâtre de Chaillot. C'est quelqu'un qui m'a ouvert ses portes parce qu'il a écouté mon projet, parce qu'il a écouté mon esprit, parce qu'on a pris le temps de se parler. Il n'a pas juste lu un dossier éventuel que je lui ai renvoyé, on a pris le temps de se parler, quoi. Et c'est vrai que ça fait défaut en ce moment, ça, les gens avec qui on peut parler.
Le gens avec qui on peut parler ou le temps ?
Le
ou
temps,
les deux.
Les deux. Parce que la parole demande du temps, parce qu'on a peur. Il y a une espèce d'appréhension, et l'appréhension, elle est justifiée. De se dire, comment va-t-on faire pour se rencontrer ? Comment va-t-on faire pour que moi, je puisse rencontrer le personnage qui est écrit et essayer de lui donner vie ? C'est pas rien. Ça demande beaucoup de courage et ça demande du temps. Et c'est vrai qu'en ce moment, le temps, il se réduit, il s'étiole de plus en plus, il se réduit de plus en plus en ce qui concerne la création artistique. Notamment en théâtre. Et aussi au cinéma. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait une série, première saison, on l'a fait, on va dire, allez, en 3 mois, ça marche bien. La saison 2, on va la faire en 2 mois et demi. Il va nous manquer 2 semaines. Et on va travailler sur des heures sup et on va payer des heures sup plutôt que... Donc, c'est un peu pénible tout ça, parce qu'il faut comprendre que quand on produit quelque chose, quand on met de l'argent pour que puisse se déployer une œuvre, qu'on ne doit pas mettre le créateur ou la créatrice dans l'endroit de l'efficacité. Il faut nous laisser le temps du doute... et du questionnement, quoi. C'est important. Sinon, toutes les œuvres vont finir par se ressembler parce qu'elles seront toutes habitées par cette même angoisse. Du coup, le ton sera pareil, les lumières presque seront pareilles, le jeu sera pareil. Donc, la spécificité, elle ne peut se déployer que sur le temps. Je ne dis pas qu'il faut traîner pendant 7 ans à essayer de trouver Hamlet, mais on ne peut pas monter Hamlet en 1 mois et demi, ce n'est pas possible. C'est impossible. Enfin, ceux qui le font, ils le font, je leur tire mon chapeau, mais... il va y manquer quelque chose de ce terreau-là qu'on n'aura pas exploré, de ces cavernes-là, de ces grottes-là qu'on n'aura pas eu le temps d'explorer avec sa petite lanterne. Voilà quoi. Un acteur, ça ne se dirige pas. Un acteur, ça c'est clair. Et on donne le temps à un acteur.
Est-ce que ça vous aide, vous, d'être acteur, pour pouvoir ensuite... Alors, diriger, je mets des guillemets, puisque vous avez dit que vous ne dirigez pas.
Non, mais quand je dis ça, c'est un petit peu une posture, mais ça se dirige, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est pas directif, c'est pas...
Oui, oui. Voilà. Mais donc, est-ce que vous, ça vous aide d'être acteur ?
Beaucoup. Beaucoup.
C'est-à-dire que vous pensez aussi, tiens, j'aimerais que le metteur en scène ou la metteuse en scène me dise autre chose que là, tu vas craquer.
Oui.
On revient à l'exemple
oui.
de l'autre fois.
Oui.
Et donc, je vais essayer, moi, de faire en sorte de dire des choses aux acteurs et aux actrices de telle façon qu'ils comprennent ce que je veux.
Bien
parce
sûr.
Que c'est ce que j'aimerais qu'on dise.
Mais bien sûr. Après, c'est ça qui est très délicat. C'est d'arriver à trouver la fermeté en échappant à la brutalité. Parce que c'est brutal, le théâtre. Qu'on le veuille ou non, c'est un acte de courage absolu que d'aller sur scène et essayer d'incarner un personnage. Donc mon travail à moi, c'est aussi de rendre la chose respirable, détendue, mais pas mou. Puis c'est un travail qui se développe sur le temps, c'est pour ça que j'essaye de travailler avec les mêmes personnes, tout en gardant une porte grande ouverte pour celles et ceux qui veulent travailler avec moi, avec nous. C'est de trouver un langage qui soit apaisant et qui soit propice à l'imaginaire. Donner des images, de donner le temps, de s'arrêter, de boire un verre, de discuter autour d'un verre, de revenir au plateau. De pas trépigner, quoi. De pas trépigner. Mais aussi de donner les outils nécessaires afin que la chose soit travaillable, la matière.
Et c'est la même chose, Simon Abkarian, que vous mettiez en scène deux personnages, dont vous, dans, par exemple, la trilogie Hélène et Ménélas. Je l'appelle comme ça, avec Nos âmes se reconnaîtront-elles, avec Marie-Sophie Ferdan, ou que vous mettiez en scène toute une troupe, comme dans L'envol des cigognes ou Le dernier jour du jeûne, où là, il y a une vingtaine d'acteurs sur scène, et ça trépigne, ça bouge, ça tourne, avec des plateaux, des décors roulants, comme dans le Théâtre du Soleil. Voilà, est-ce que c'est la même façon de travailler ?
Elle change
dans
pas.
La sobriété ou dans l'énergie qui se déploie ?
Après, c'est une autre énergie, quand on est 20-24 sur scène, comme dans Electre. C'est une autre énergie, notamment parce qu'il y avait la musique live, la musique vivante, et c'était électrique, c'était assez rock'n'roll ce que faisaient les Rolling Joes. Donc ça insuffle, ça donne un souffle, parce qu'il y avait beaucoup de danse, etc. Donc chaque spectacle a sa nature, mais fondamentalement le travail reste le même. À savoir travailler la matière par le jeu, par l'imaginaire, et puis surtout de désinquiéter les gens, c'est tout. Enfin, j'arrive pas à dire autre chose. La chose différemment, c'est de ne pas fabricoter des trucs pour réussir la scène, quoi. Ça se voit. Les trucs, les ficelles se voient. C'est de rendre invisibles, justement, les fils qui soutiennent la marionnette. Et quand je dis marionnette, c'est un compliment, parce que je pense que les marionnettes sont des êtres très précis. Mais le manipulateur et la marionnette ne font qu'un. C'est pas quelqu'un qui vous tient par le haut, qui vous enfile comme un gant et qui vous fait jouer. Non, c'est pas ça. C'est pas manipuler l'autre. Être une marionnette, c'est être son propre marionnettiste et d'arriver à être précis dans chaque geste, dans chaque, que ça puisse être plein et racontant. Et jusqu'à ce que ça devienne fluide et que ça devienne vivant. Je dis vivant à dessein parce que parfois on dit, il y a ce mot qui revient souvent, ouais, c'est super réaliste, c'était bien. Moi, le réalisme, au contraire, c'est pas du tout un compliment qu'on fait quand on dit c'était vachement réaliste, quoi. Je veux pas que ce soit réaliste, je veux que ce soit la représentation du réel et du vivant. C'est pas la même chose. Donc, comment on recrée ça ? Ben, c'est par le travail et l'art de jouer. Et l'écriture est fondamentale, je pense.
Est-ce que vous travaillez en musique, Simon Abkarian ?
Toujours.
Est-ce que la musique, elle est extrêmement présente dans votre travail sur scène ?
Toujours.
Les chansons accompagnent le texte, les chansons répondent aux acteurs. Voilà. Quelle place a-t-elle pour vous, la musique dans
ça a commencé avec Jean-Jacques Lemaître au Théâtre du Soleil, qui a
accompagné pendant plus de 20 ans le Théâtre du Soleil.
Qui est un des plus grands compositeurs qui a mis son travail au service du théâtre pour moi. Et c'est vrai que à partir de là, j'ai pas pu m'en défaire, je ne veux pas m'en défaire. Et ça, c'est très proche du théâtre oriental, parce que les musiciens sont présents.
Et ils sont sur scène, vous voulez dire ?
Ouais, exactement. Parce que c'est pas de l'accompagnement. Les instruments de musique rentrent dans le récit. C'est pas de l'ornementation musicale ou qui viendrait souligner un moment tragique de la pièce où on fait rentrer une contrebasse. C'est tout un art. C'est tout un art. Mais même quand il n'y a pas de musique, le texte et le corps de l'actrice ou de l'acteur doivent être musical et musicaux, les corps. Sans musicalité, pour moi, il n'y a pas de jeu, quoi. Il n'y a pas, sans rythme, sans profondeur de... Il faut que ce soit dansé, il faut que ce soit chanté.
Pourquoi il faut ?
Alors je retire le « il faut », il serait intéressant que ce soit chanté. Ou ce soit dans... Mais vous avez raison de me reprendre. Pour moi, c'est intéressant parce qu'on ouvre un autre espace, on échappe au réalisme, et on ouvre un autre espace qui est... Justement, c'est les spectateurs qui construisent leur propre réel en écoutant quelque chose qui est dans l'ordre de l'épique ou de la fable. Alors bon, moi, c'est pour ça que les spectacles psychologiques, tout ça, ça m'intéresse pas beaucoup, quoi. Je dis pas que c'est pas bien, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin d'épique. J'ai besoin de me décoller de la réalité pour mieux la convoquer.
Et vous utilisez différentes formes de musique. Alors, il y a deux guitaristes et joueurs de bouzouki qui vous accompagnent beaucoup. Kostas Tsekouras et Grégoris Vassila. Mm-hmm. Mais par exemple, pour Nos âmes se reconnaîtront-elles, c'était des joueurs kurdes, de musique kurde. Dans Ménélas Rhapsody, sur scène, vous avez ajouté le rebetiko. Comment un style de musique s'impose-t-il à une pièce, enfin en tous les cas une mise en scène pour vous ? À quel moment où vous dites, là, il va falloir cette musique populaire grecque pour accompagner mon spectacle ? Ah non, là, je vais... Voilà.
Mes grands-parents, mes ancêtres viennent de l'Asie mineure. L'Asie mineure est riche en musique, très riche. Et c'est vrai que le rebetiko, il raconte quelque chose d'une certaine époque, qui part de 1920 jusqu'aux années 60 en Grèce, après la grande catastrophe où les Grecs sont obligés de quitter leur terre d'Asie mineure, se retrouvent à jouer cette musique-là, mais qui part très tôt de Smyrne et de Constantinople aussi. Donc c'est une musique subversive. Pour moi, en fait, le rebetiko, c'est les restes de la table, de la grande tablée tragique, les miettes, les rogatons, qui continuent à perdurer. Le tragique s'est réfugié là, dans cette taverne-là, à ce moment-là. Parce que ça surgit pas de nulle part, ça vient de très loin. C'est mode, les taximi, comme ils disent les Grecs, ça vient de très loin. Probablement de la musique byzantine et avant. Après, les musicologues confirmeront ou pas ce que je dis. Et pour les Kurdes, c'est pareil. Les Kurdes, ils ont le sens du tragique parce qu'ils ont le sens du perdu. Ils ont le sens de l'exil, ils ont le sens de l'oppression, donc de soif de justice. Donc leur chant raconte aussi leur combat, que ce soit les Grecs d'Asie mineure ou les Kurdes qui vivent encore en Anatolie, j'espère encore pour longtemps, qui racontent ça, parce qu'ils ont ce sens-là, malheureusement. Malheureusement.
À quel moment la musique arrive-t-elle dans la mise en scène ?
Tout de suite.
Tout de suite.
En répétition, le premier jour, il y a musicien. Avec Marie-Sophie, on a fait beaucoup de lectures parce qu'on a travaillé beaucoup sur le texte. Je peux dire que Marie-Sophie a participé à la dramaturgie. C'est une dramaturge née. C'est pas seulement une actrice, c'est quelqu'un qui a un grand sens de l'écriture et de la construction dramatique. Donc on l'a fait ensemble, si vous voulez, la dramaturgie, même si c'est pas mentionné dans les programmes. Et là, je lui rends hommage parce qu'elle a vraiment participé à cette écriture-là. Donc on a travaillé 5-6 jours. Puis très vite, les musiciens, Lushan Filistek et après, la petite nous a rejoint plus tard. On construit la musique avec le texte. C'est pas que j'écris un livret et que tout d'un coup, il y a un compositeur. Ou quoi. Ça se fait, ça se tisse au fur et à mesure des répétitions. Quoi. Et tout d'un coup, on découvre et des choses et ça nous bouleverse, ça nous redonne de l'élan. Et puis après, on se dit, non, peut-être que là, il y en a trop, etc. Il faut s'arrêter et laisser parler le silence pour que puisse ressurgir la parole et la musique et le chant. C'est-à-dire que la musique continue, les mots ne peuvent plus aller. Ça continue là où les mots s'arrêtent.
Vous êtes musicien vous-même ?
Non, moi je suis danseur.
Ouais. On vous voit danser quasiment dans tous les films, et ouais. Quasiment, hein, parce que dans toutes vos pièces.
Ben, tant que je peux, je vais le faire, quoi. Parce que même être assis immobile, c'est de la danse. Sur une chaise de théâtre. C'est pour ça, je veux pas plier, quoi. Je veux rester encore dansant, même dans une chaise assise. Prêt à bondir, prêt à surgir. Donc, je vais pas m'affaler, on va dire. Je vais jamais m'affaler. Quel que soit l'objet qui me tient, que ce soit la terre, une chaise, une table, ou les bras d'un homme, d'un ami ou d'un amant, dans lesquels, dans la pièce, je m'écroulerai, je suis toujours prêt à, ou d'une femme, je suis toujours prêt à surgir, à bondir. C'est ça, pour moi, un corps dansant. Après, je ne vais pas dire ce que c'est que la danse, parce que je ne suis pas un danseur, qui, un être qui a consacré sa vie à danser, mais je suis quelqu'un qui a dansé toute sa vie.
Où est-ce que vous avez appris ?
En regardant mon père. Grand danseur. Une fois, on dansait, c'était une danse de 9 temps, qui s'appelle le Tamzala, qui vient de sa région, de Garin, en arménien, Erzurum. J'étais en train de danser, il m'a tapé sur l'épaule, je me suis retourné, c'était lui, il m'a dit « Assieds-toi, regarde. » Puis il a dansé pour moi. Donc, voilà. Et puis pas que mon père, d'autres gens, enfin ma mère, les voisins, les amis. Danser, c'est un acte divin, c'est un acte qui relie le temporel au divin. C'est grave de danser, et c'est léger et joyeux de danser, c'est redéployer ses ailes qu'on nous a coupées.
Quand vous avez reçu vos 3 Molières en 2020 pour l'envol des cigognes, Simon Abkarian, vous avez déclaré « Le théâtre et la beauté sauveront le monde ». 5 ans plus tard, vous le pensez toujours ?
Oui et non. Oui, parce que je suis obligé de me raconter ça pour me donner courage. Non, parce que le théâtre, l'art, n'a pas de mission qu'on puisse lui assigner. L'art existe parce qu'il doit exister, au-delà de lui-même, en se dépassant, sans se donner des directives culturelles. L'art ne peut pas rentrer dans un cadre qu'on pourrait... L'art, il existe par lui-même, pour lui-même. Mais moi, je dois me donner des courages en disant, oui, de me donner voilà, une mission, une armure, un cheval blanc, enfin, me prendre pour un chevalier, mais j'espère que le théâtre sauvera le monde. Je l'espère. J'espère qu'il pourra réduire les abîmes qui nous séparent de nous-mêmes. J'espère qu'il pourra nous éclairer, nous faire danser, nous faire chanter, nous faire nous réunir, nous empêcher de nous entr'égorger, parce que ceci, parce que cela. Parce que l'art, il dit aussi le lien qui lie intrinsèquement les humains. C'est ça aussi qui, pour moi, est important, c'est de se dire qu'est-ce qui nous lie. Et l'art, la création artistique, enfin moi je peux parler de théâtre et de danse et de chant. Je me suis retrouvé autour de tablés avec des Grecs, des Gitans, des Kurdes, des Arméniens, des Bretons, des Américains, qui parlions le même langage, qui partagions le même pain, le même vin, les mêmes aspirations, les mêmes rires, les mêmes silences. Donc en ça, je me dis que oui, il sauvera le monde dans le sens où il pourra nous réunir autour de la table des hommes, un jour, de nouveau. Il faudra la redresser, cette table, lui remettre le pied qu'on a cassé, parce qu'il en manque un en ce moment, voire deux. Donc, la redresser, cette table, et qu'on se remette autour. Et quand je dis table, je pense que la table est le premier endroit où on pratique, justement, l'art et le sacré, le sacré du collectif, de ce chant primaire qui est le chant de l'amitié ou de l'amour.
Et les tables sont faites pour danser dessus. Vous montreriez sur cette petite table devant nous pour danser, pour terminer, Simon Abkarian. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue avec Simon Abkarian, réalisation Nathalie Salle, prise de son Eric Audra, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.